Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et combien il est bon, Seigneur, d'être ensemble ce matin avec les frères et sœurs devant ta parole pour commencer cette nouvelle semaine, nous souvenir de toi, entendre ce que tu as à nous dire. Nous te remettons ce culte, Seigneur, que tu puisses parler à chacun, être avec ceux qui vont apporter ta parole, Seigneur, pour qu'ils nous délivrent ton message. Et nous te remettons ces moments, Seigneur, que tu les conduisent, les bénissent. Amen.
Pour partager ce moment, on prendra tout d'abord dans Luc 22, quelques versets, les versets 63 à 70. Luc 22, versets 63 à 70. C'est au moment où Jésus est arrêté. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Les premiers versets là nous montrent que Jésus, déjà avant son passage devant Pilate, est moqué, il est frappé, il est injurié, et il va leur dire qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et une phrase qui annonce où il sera, c'est le verset 69 que nous venons de lire, « Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Mais ces hommes sont aveuglés et ils vont le crucifier. Et là, on continuera à lire quelques versets, cette fois-ci dans Luc 23, les versets 33 à 46. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y a des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jésus va tout endurer sans dire un mot, hormis de demander à Dieu de pardonner à ses bourreaux et d'assurer le brigand repenti qu'il sera avec lui dans le paradis le jour même. Il n'y a aucune condamnation qui sort de sa bouche à ce moment-là. Avant de mourir, Jésus va remettre son esprit entre les mains du Père, c'est ce qu'on a lu au verset 46. Et si on va voir toute la signification, puisque la parole est quand même très précise, il faut ajouter un verset à cela, pour bien mesurer son sacrifice à la croix, et ce que ça a donné, ce que ça nous a donné, c'est Jean 19, 30. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. « Tout est accompli », le mot grec est « tétélestai », c'est un terme qui peut être un terme comptable, qui signifie « payer en entier ». À la croix, Jésus a tout accompli. Il a achevé le plan parfait de Dieu pour offrir un salut aux hommes, pour nous offrir un salut à chacun de nous ici. Cette parole de Jésus sur la croix est une des déclarations les plus fortes de toute la Bible, car elle résume, elle valide l'œuvre du salut. Jésus, en obéissant au plan de salut voulu par le Père, va accomplir les prophéties annoncées. Il va être un sauveur qui souffre, qui est rejeté par les hommes. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et puis quand on dit un sauveur qui souffre, le détail de ses souffrances, on peut relire quelques versets dans le psaume 22. Psaume 22, les versets 12 à 20. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Un sauveur qui souffre, ces versets nous donnent la mesure, si on peut dire, des souffrances qu'il a dû endurer. Et notre Seigneur a supporté cela par obéissance au Père, pour des hommes qui le crucifiaient, pour tous les hommes frappés de péché dont nous faisons partie. Car tous les hommes ont péché. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et puis Romains 3, versets 10 à 12, je vous le lis, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Les mots de ces versets sont forts. « Pas un seul homme qui fasse le bien, tous égarés et pervertis. » Cet état a provoqué la séparation d'avec Dieu et le jugement qui va en découler. Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais Jésus est venu tout accomplir à la croix pour que la deuxième partie de ce verset 23 soit une réalité pour chacun de nous. La deuxième partie, c'est « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jésus est venu porter nos péchés, subir le jugement à notre place, et payer entièrement la dette. Par son sacrifice, parce qu'il a tout accompli, l'accès à Dieu nous est ouvert. Il n'y a plus de séparation avec lui. Et au moment où Jésus a rendu l'esprit, Matthieu 27, 51 nous dit « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Comment pouvons-nous mesurer ce que représente d'avoir un accès direct au Dieu Tout-Puissant ? Un Dieu qui peut tout et dont la puissance n'a pas de limite. Jésus est devenu, par son sacrifice parfait, l'unique chemin vers Dieu le Père. Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le sacrifice de Jésus à la croix est une victoire sur la mort, car notre Seigneur est ressuscité. On l'a rappelé dernièrement, on le rappelle tous les dimanches, mais il est ressuscité. Et Jean 11, 25 nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et dans ces mots, tout est accompli, il y a aussi le fait que nous n'avons pas à réaliser de grandes œuvres ou de choses particulières pour mériter le salut, mais seulement de croire. Éphésiens 2, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces mots, « tout est accompli », ont ôté la condamnation qui était sur nous. Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et puis ces mêmes mots nous permettent de vivre dans l'assurance du salut, en confiance et en paix avec Dieu, car notre Seigneur a tout payé à la croix, comme on l'a dit. Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous pouvons vivre dans l'assurance du salut, car il repose sur notre Seigneur qui a tout payé par amour pour nous. 1 Jean 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. » Si Jésus n'avait pas fait le premier pas, s'il n'avait pas donné sa vie par amour pour nous, tout ce qu'on vient de dire n'existerait pas. Il nous a aimés en premier alors que nous étions perdus et que nous ne méritions rien. L'œuvre du salut a été entièrement accomplie à la croix et notre vie chrétienne consiste à marcher chaque jour avec notre Seigneur et Sauveur. Et si c'est ce que nous faisons, dans ce cas, il sera à nos côtés. le verset qui est derrière moi, Luc 24, 15, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Chacun peut adapter ce verset en disant Jésus s'approcha et fit route avec moi. Alors, tout a été accompli à la croix, Jésus est présent, il fait route avec chacun de nous. Nous pouvons encore le remercier d'avoir donné sa vie, nous avons partagé ce repas en mémoire de lui, et d'avoir donné sa vie et d'avoir offert à chacun un salut éternel. Nous voulons prier. Seigneur, tu as remis devant nos yeux tes souffrances à la croix, des souffrances indicibles que nous ne pouvons mesurer. Et Seigneur, c'est par ton sacrifice que, en disant tout est accompli, que nous pouvons avoir accès direct au Père, avoir la vie éternelle sans l'avoir mérité. Seigneur, que nous puissions encore te remercier, te glorifier pour cela. Amen.
Il y a quelques minutes, Alain vient de nous rappeler que la vie chrétienne consistait à marcher avec le Seigneur. C'est la condition sine qua non pour qu'il marche avec nous. Et on va reprendre quelques versets qui nous ont été apportés par Michel la semaine dernière dans Hébreux, chapitre 12, les trois premiers versets. Hébreux 12, versets 1, 2, 3, particulièrement le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Michel aussi a rappelé donc ce terme de courir avec persévérance. Ce terme inclut aussi la patience et la foi. En prenant exemple de toutes ces personnes qui ont été citées dans le chapitre 11. Et donc on va reprendre quelques mots qui nous ont été rappelés. Marcher, courir. Et puis, il nous a été aussi rappelé le terme « stationner », »,« stagner ». On va voir leur application dans la parole de Dieu, puis dans notre marche à nous. Alors, je reprends les définitions du Larousse. Marcher, c'est se déplacer en mettant un pied devant l'autre, l'un devant l'autre. Se déplacer en gardant le contact avec le sol, ça semble évident. C'est tendre vers un objectif, un résultat, s'avancer vers quelqu'un, vers quelque chose. Courir. Se déplacer rapidement, se dépêcher, participer à une course, chercher avec insistance à obtenir quelque chose, rechercher quelqu'un, sa présence. Stationner, s'arrêter, demeurer au même endroit pendant un certain temps, et stagner, rester immobile, sans couler, en parlant d'une rivière, sans se renouveler, ne pas évoluer, rester à la même place. Ces définitions peuvent être employées dans la parole de Dieu. Eh bien, on va le voir. Nous avons vu, tout d'abord pour le terme marcher, il y a la notion d'avancer. Le problème est de savoir où nous marchons, avec qui nous marchons, comment nous marchons et pourquoi nous marchons. Alors, où marcher? On est fait pour marcher, on a deux jambes. Donc, sur quel chemin? Alors, on va reprendre quelques paroles, quelques versets dans la parole de Dieu, Deutéronome. Chapitre 8, verset 6. Je vous le lis. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Un petit peu plus loin, Deutéronome 30, verset 16. Je vous le lis toujours. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça, ce sont les ordres que l'Éternel a donnés à son peuple. Est-ce qu'ils ont suivi cette voie? Est-ce qu'ils ont pu? Ils ont transgressé dans toute l'histoire du peuple d'Israël, malgré les avertissements des prophètes, malgré la fidélité de leur Dieu qui n'a cessé de leur rappeler son amour en les invitant systématiquement, les implorant même à revenir à lui. On peut lire quelques versets dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, versets 8 à 10. Donc Ésaïe 41, versets 8 à 10. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et un petit peu plus loin, au verset 13 et 14, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. C'est poignant, ces versets, d'un Dieu qui s'adresse à son peuple, qui devrait être son serviteur. Et malgré ce constat que Dieu fait sur son peuple, ce constat terrible, dans le même chapitre, lisons les versets 28 et 29. Je regarde. Et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Quel va être le résultat de ce comportement? Le jugement de leur Dieu qui va mener ce peuple à la ruine et à la déportation, au lieu de la bénédiction promise. Ben heureusement qu'on n'est pas comme ça, hein. On n'aurait pas fait comme ça. On n'aurait pas agi de la sorte. Est-ce que c'est sûr, ça? Ben, on va lire Éphésiens, chapitre 2, les trois premiers versets. On peut prendre plusieurs versets, hein, dont ce qui nous a été rappelé dans Romains 3. Tous sont pervertis. Il n'y en a pas un seul n'est juste. Donc Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous marchions sur le même chemin que celui du peuple d'Israël. Et si maintenant nous avons la possibilité de marcher sur un autre chemin, c'est parce que notre Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a aimés et nous a sauvés. Et en plus, nous savons où marcher. C'est le Seigneur lui-même qui nous le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Donc le chrétien sait où est le chemin. Et s'il s'égare, il sait là encore ou se tourner pour retrouver sa route. Le psaume 139, versets 23-24, nous les connaissons bien, je vous les lis. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est David qui dit cela. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Ça veut dire que c'est possible. C'est possible de s'égarer. Le chemin sur lequel marche le chrétien, ce n'est pas un boulevard. Le Seigneur nous le rappelle. Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, on va les lire, c'est le Seigneur qui parle et qui nous dit, donc Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » C'est un chemin semé d'embûches, parfois escarpé, où il faut grimper, s'agripper, où il faut longer des précipices avec des risques de chute, où il faut parfois descendre dans des vallées sombres. Mais il y a une chose qu'il faut nous rappeler, capitale, c'est que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Nous étions comme des brebis errantes, mais maintenant, nous avons un berger qui nous connaît et qui nous conduit. Pourquoi la parole nous dit d'avoir les regards fixés sur Jésus? Sinon, parce qu'il est le bon berger. Le psaume 23, versets 3 et 4, là encore, pas la peine de chercher, vous les connaissez tous par cœur. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Quel que soit le chemin, si difficile soit-il, c'est lui, c'est le Seigneur qui me conduit, toujours là. Et dans mes chutes, c'est lui qui me relève. Il est dit dans Proverbe 24, « Sept fois le juste tombe, mais à chaque fois, il se relève. » Pas à cause de ses propres forces, mais parce que le Seigneur est là. Il restaure mon âme. C'est lui-même qui l'a dit encore à son peuple, malgré ses transgressions, malgré son incrédulité, son infidélité, ses nombreux péchés. Au Deutéronome 31,6, il nous est dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant vos ennemis, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Et au roi de Perse, Cyrus, qui n'était pas, c'était pas un enfant de Dieu, il ne faisait pas partie du peuple d'Israël, dans Ésaïe 45,3, il dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » C'est extraordinaire d'avoir un tel Dieu qui, malgré nos infidélités, lui, reste fidèle et vient nous rechercher là lorsque nous nous perdons. Il marche avec nous. Il nous a été rappelé. Il marche avec nous si nous marchons avec lui sur le chemin qu'il a lui-même tracé. Pas sur le chemin que je veux, moi. Non pas ma volonté, mais la tienne, a dit le Seigneur Jésus. Alors, de quelle manière marcher? Comment? Là encore, la parole de Dieu nous éclaire. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est clair? Galates 5, versets 16 et 17. Il est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc là encore, c'est clair. Marchez selon l'esprit, marchez par la foi. Ou marchez par la vue, selon mes propres desseins, mes propres désirs, mes propres projets, ou marcher comme toi, Seigneur, tu le veux. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les choses sont simples pour marcher comme ça, les yeux fixés sur Jésus. Toujours, parce que c'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est lui qui le dit, on peut lui faire confiance. En Jésus, il ne manque rien. Mais hors de lui, il nous manque tout. Nous n'avons rien. Nous avons tout pleinement en lui. Alors est-ce que j'aurai une excuse pour m'arrêter en chemin, pour ne plus marcher? C'est Pierre qui nous dit que Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. C'est 1 Pierre 2, 21. Pour nous amener, ça c'est le but, à lui ressembler. Le chemin n'est pas un chemin de errance, il nous mène à la ressemblance de Christ. C'est son but, la réponse au pourquoi marcher. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Ça ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Ce n'est pas un chemin facile, parce que suivre les traces de Christ, ça demande une chose. Je vous lis Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas facile, mais soyons assurés que sur ce chemin, celui de la vérité, le Seigneur réalisera ce qu'il nous dit et ce qu'il a promis. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard tout doucement, de progrès en progrès. » Voilà ce que le Seigneur veut. Et si c'est de progrès en progrès, c'est que ça ne se fait pas en une seconde. Mais le Seigneur l'accomplira à une condition. La seule chose que le Seigneur me demande, comme il l'a demandé à Ésaïe, j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Ça demande que je le veuille. Il nous a été rappelé vendredi cette exhortation que le Seigneur a faite à Pierre. « Que t'importe, toi, suis-moi. » Ça veut dire qu'il faut marcher pour suivre. Sinon, maintenant on a vu ce que voulait dire marcher. Marcher selon le Seigneur, on va voir. Il y a le terme courir aussi. Dans Hébreux 12:1, c'est pas seulement marcher, c'est courir. On en a vu la définition. Alors pourquoi court-on ? Dans sa marche, l'apôtre Paul la compare à la course du sportif. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, on va les prendre. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a un but, un prix, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre, dans le chapitre 1, verset 4. Alors pourquoi courir ? Quand on court, c'est pas aussi parce qu'on a peur d'être en retard. Mais si on a peur d'être en retard, c'est parce qu'on a un intérêt, un rendez-vous à ne pas rater. Mais il y a quelque chose de plus important. C'est plus que l'intérêt qu'on porte à ce rendez-vous, c'est l'amour qui a derrière. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Il a terminé ce que le Seigneur lui avait confié. Il attendait ce moment, cette rencontre avec celui qui avait donné sa vie pour lui et pour qui il avait donné la sienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je cours vers Jésus dans cette carrière qui m'est ouverte par son propre sang, dans laquelle j'ai maintenant un libre accès, ou bien est-ce que je stationne ? Je me gare tranquillement. On en vient au terme stationner maintenant. C'est interpellé par ce mot, dimanche dernier. Une marche à plus forte raison, une course peut être efficace si elle va de l'avant, dans le but d'arriver le plus tôt possible. Bien sûr que dans le parcours, il peut y avoir des pauses. Chacun a ses propres motifs. La maladie, la fatigue, etc. C'est comme avec votre voiture, on va prendre cette comparaison. Au cours d'un trajet sur une autoroute, il y a des aires de repos, sur lesquelles nous pouvons et parfois nous devons nous arrêter quelque temps. Mais il y a aussi des endroits où il n'est pas très conseillé de s'arrêter. La bordure de l'autoroute, justement, est très dangereuse. Ou en ville, il y a des endroits où le stationnement est interdit. Peut-on comparer cela à la vie chrétienne ? Notre Dieu, il nous permet tout. Il nous laisse libre choix. Oui, il nous laisse libre. Mais il y a des conséquences dans nos choix. Toujours dans Deutéronome, verset 19 du chapitre 30, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dans Josué, au chapitre 7, un homme s'est rendu responsable de la défaite du peuple, parce qu'il a péché. Au verset 1, il nous a dit, dans Josué 7, on va peut-être les prendre ensemble, Josué 7, parce qu'on va prendre deux versets. Donc c'est Achan, on va voir ce qu'il a fait, au verset 1, Josué 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël, au point qu'ils vont partir en combat, et puis qu'ils vont être défaits par l'ennemi. Josué va se demander pourquoi, et au verset 13, la sentence tombe. Il dit à Josué, le Seigneur, « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et ils vont ôter à quand ? À quand s'égarer dans un stationnement interdit ? Résultat, la défaite du peuple et sa mort. Nous avons ce privilège immense qu'il y a quelqu'un qui a porté l'interdit sur sa propre personne, le Seigneur Jésus. Alors, pourquoi stationner ? Stationner, c'est marcher, pas forcément m'arrêter, c'est marcher dans mes voies. Parce que là, c'est même reculer, tout simplement. Il y a quelques exemples dans la parole où nous voyons de façon flagrante la différence entre ceux qui marchent avec persévérance et patience et ceux qui s'arrêtent, qui stationnent, qui stagnent et qui régressent. Dans la même famille, on va prendre deux exemples, Abraham et Lot. Abraham, le père des croyants, et on va lire ce qui nous est dit de lui dans Romains 4, versets 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, c'est ça la persévérance, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On lit souvent ces versets, mais vous imaginez la place d'Abraham ? Vous avez bientôt 100 ans. Vous avez une épouse qui est ménopausée, Dieu vous promet un enfant. Mais c'est une folie. Ben, il a persévéré. Il a eu des chutes, oui. Mais qu'est-ce que Dieu a regardé au terme de tout cela ? On est plusieurs siècles quand ces paroles sont écrites. C'est sa foi qui est mentionnée. C'est sa persévérance. C'est sa confiance en son Dieu. Sa marche avec son Dieu. Il partit sans savoir où il allait. Rendez-vous compte. On connaît ses parcours, ses errements. Mais ce que Dieu a gardé en souvenir, c'est sa marche par la foi. Peut-on dire la même chose de Lot ? Est-ce que Lot est mentionné pour sa foi dans Hébreux 11 ? Pas du tout. Sa marche, bien que lente, et sa foi chancelante, se sont arrêtées un jour. Genèse 13, on va lire Genèse 13, versets 7 à 11. Genèse 13, 7 à 11. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot choisit pour lui. La marche sur le chemin de la foi s'arrête là. Il avait jusqu'à présent plutôt suivi son oncle que son Dieu. Maintenant, il choisit pour lui. Conséquence de ce choix, il ne stagne plus, il rétrograde. Faisant partie des autorités de Sodome, il perd même son autorité dans sa propre famille, puisque quand il annonce que la destruction de Sodome et de Gomorre, ses gendres, ils ont l'impression qu'il plaisante. Il finit par engendrer Moab et Ammon de la part de ses filles qui l'ont saoulé. Quel résultat ? C'était pourtant un chrétien, puisque Pierre le mentionne dans sa deuxième épître. Il dit de Lot, « Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, ceux de Sodome, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Aucun fruit, puis tourmenté. » Voilà quelqu'un qui stagne et qui rétrograde. Alors que peut-on en conclure pour nous ? Comment m'étalonner par rapport à ce qui nous est dit ? Est-ce que ma vie chrétienne, c'est ce que le Seigneur m'a posé comme question, c'est pour ça que je le soumets, est une marche, une course, nécessitant la persévérance et la patience, ou est-ce que je reste sur une voie de garage ? Ben pour ce faire, pour s'étalonner, on va prendre un verset qu'on connaît bien là encore, dans Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc persévérer, c'est demeurer ferme, c'est la définition toujours du Larousse, demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Donc on va prendre ces quatre piliers que sont les piliers de la vie chrétienne, l'enseignement des apôtres. Alors c'est pas les apôtres qui sont enseignés, bien que c'est les chrétiens qui sont enseignés par les apôtres. Bien que quand on enseigne, on est aussi enseigné. Ce sont les convertis qui persévèrent dans cet enseignement prodigué. Alors il y a un enseignement le vendredi soir à Étupes. Est-ce que j'y vais en marchant, qu'il faut bien ? Est-ce que j'y cours parce que j'ai soif d'entendre la parole ? Ou est-ce que je reste stationné chez moi parce que j'ai autre chose à faire ? Je vous pose cette question parce que c'est le Seigneur qui m'a posé cette question. Je vous le dis encore, c'est pas un jugement pour vous, mais le Seigneur me pose ça, il me dit « mais je veux savoir où tu en es. Si tu apportes une parole, il faut que tu sois aussi en règle. » La vie chrétienne se démontre par des faits. On a lu que marcher, c'est avoir les pieds sur terre, les yeux fixés sur Jésus, les regards en haut. Ensuite, la communion fraternelle. On la retrouve partout dans l'enseignement, le temps passé avant, après les réunions, les visites aux malades ou à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les coups de fil pour prendre des nouvelles, la participation au repas fraternel. La communion fraternelle, c'est aussi un des quatre piliers de la vie chrétienne. Suis-je heureux d'y participer, de rencontrer mes frères et sœurs, en courant à leur rencontre, ou là encore, est-ce que je préfère rester chez moi ? La parole nous dit dans Proverbes 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et la suite est pire, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Ce n'est pas tellement une bonne position. Demandez son avis à l'autre. C'est ce qu'il a fait. Il a cherché ce qui lui plaisait. Il a choisi pour lui, avec des conséquences dramatiques. Troisième, la fraction du pain. Le repas du Seigneur est par là même. Le rappel du sacrifice du Seigneur sur la croix a-t-il toujours la même importance lorsque j'y participe, en proclamant que je veux suivre ses traces avec ses promesses, mais ses conditions. Quand je partage le pain et la coupe, je dis « je suis mort avec Christ ». On en a parlé vendredi, j'ai pu voir là encore, il y a des failles en ce qui me concerne. Puis ensuite les prières. Le Seigneur nous dit « prier sans cesse ». Est-ce que mon temps de prière est suffisant ? Ma participation à la réunion de prière a-t-elle de l'importance ? Est-ce que je porte les fardeaux des autres comme Jésus a porté les miens sur la croix ? Rejetant tout fardeau. Mais sur qui ? Sur lui, il attend que ça. Est-ce que je porte, oui, les fardeaux des autres pour que je vienne à la réunion en marchant, voire même en courant ? Paul aurait voulu être anathème, damné pour sauver ses frères. Ou bien je les laisse se débrouiller avec leurs problèmes. On va prier pour toi. Dans toutes ces questions, je dois dire que je me suis senti déficient, voire négligent. Mais en fait, dans tout cela, j'ai pu constater que c'était mon manque d'amour pour le Seigneur et donc pour les autres, pour vous. Mais il y a un mais. Dans mes manques, je peux compter sur Jésus, que sur lui, les yeux fixés sur lui, sachant que si je le veux, il pourra me conduire sur le chemin, on l'a déjà rappelé, qu'il a tracé pour moi, à condition que je le veuille. Puis encore un petit verset. On a parlé des interdits, tout ça. Ecclésiaste 11, verset 9 nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. J'aurai à rendre compte. » Alors voilà, une exhortation et puis un constat. Mais ce constat, ce n'est pas pour constater, c'est pour qu'on avance. Alors voilà ce que je vous ai soumis aujourd'hui, et puis ça nous encourage chacun à marcher, mais les regards fixés sur Jésus. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui.
Seigneur, nous te remercions pour ces instants et qui font partie de ce que tu nous demandes d'être, de faire, c'est d'être là ensemble devant toi. Seigneur, tu nous as indiqué ce matin d'avoir les regards fixés sur toi. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'on voit quand on te regarde, Seigneur? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, Seigneur, nous voyons ce Dieu qui nous a sauvés, ce Seigneur Jésus qui est monté à la croix pour nous, qui nous a purifiés. Nous voyons aussi, Seigneur, celui qui va nous soutenir toute cette semaine dans cette marche, dans cette course. Et Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de nous donner de t'aimer plus pour tout cela, pour courir avec toi. Seigneur, c'est un don de ta grâce aussi que tu peux nous faire et nous pourrons, Seigneur, te regarder en voyant tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas encore faire pour nous. Te remercions pour ces instants, accompagne chacun. Seigneur, réveille ces paroles dans nos cœurs toute la semaine. Soyons, Seigneur, fidèles à toi, Seigneur, parce que tu as fait bien plus que cela pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous accompagner et de soigner, Seigneur, tous ceux qui en ont besoin, de panser les plaies. Et Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu le feras. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.